Leclerc.
Coutances, Mont-de-Marsan, Saumur.
Tu prépares tes vacances ?
Non, je regarde le programme du Festival Culturissimo des espaces culturels Leclerc. Il y a des lectures, des concerts et des lectures musicales partout en France.
Non, et chez moi à Troyes ?
Attends, je regarde. Oh, il y a une lecture musicale avec Sandrine Bonner.
Génial, je vais vite chercher une invite.
Culturissimo, c'est le festival des espaces culturels Leclerc avec près de 90 événements gratuits partout en France. Demandez votre invitation en magasin dans la limite des places disponibles. Magasins participants et événements sur www.culturissimo.com. Leclerc.
Neuf heures trente, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes au début du mois de juin 1944 à Vichy et la pluie s'abat sur l'hôtel du Parc. L'hôtel du Parc est en plein centre de la ville thermale, c'est le siège d'une partie du gouvernement de Vichy et ce jour-là, le chef de l'État français, c'est son titre, Philippe Pétain, reçoit pour le déjeuner un certain nombre de préfets. Vous voyez bien à quelle période on est. On est juste avant le débarquement de Normandie. La zone libre à l'époque est vraiment appartient au passé, hein, puisque depuis novembre 42, il n'y a plus de zone libre et Philippe Pétain, sur le papier, est toujours chef de l'État, mais dans la pratique, c'est Pierre Laval, le chef du gouvernement, qui est le véritable décisionnaire. Il y a 6 mois, à la fin de l'année 43, le vieux Philippe Pétain s'est vu dessaisir de tous ses pouvoirs parce qu'on estimait que cet homme de 88 ans n'était plus suffisamment en forme, plus suffisamment assez vif pour occuper la fonction qui était la sienne. Pétain est donc d'abord un symbole à cette époque-là. De toute façon, le régime de Vichy ne maîtrise plus grand-chose. Il est complètement assujetti à l'occupant, qui bloque tout ce qu'il souhaite dès que le régime tente de mettre en œuvre la moindre décision qui pourrait avoir un air un peu souverain. En juin 44, tout le monde ne parle que de ce sujet. Le débarquement serait imminent. Quand exactement, où exactement, c'est la grande question. Mais on sait que les Alliés vont débarquer. On sait que les mois qui viennent vont être particulièrement compliqués. D'ailleurs, voilà ce que Pétain lui-même disait 3 jours plus tôt à la radio. On a tendance à penser qu'il lisait à peu près tout ce que lui tendait le cabinet à l'époque. Il se déroulerait donc une grande bataille, dit le maréchal Pétain, entre deux parties opposées sur le sol de France. Vous pensez bien que cette pensée de l'idée qu'on pouvait venir se battre sur le sol de France me fait frémir un peu d'épouvante, parce que là, je n'ai pas mon mot à dire. Nous sommes obligés d'accepter que deux adversaires se battent sur notre sol. Vous voyez dans quel état peut être le pays. Eh bien, je peux vous dire qu'il ne faut pas vous préoccuper ou vous en mêler. Aucun Français ne doit être mêlé à ce conflit. Il faut rester bien tranquille, regarder les gens se battre et ne pas se mettre dans un parti ou dans un autre parce que vous subiriez des représailles épouvantables. Par conséquent, il s'agit d'être sage. Voilà. Voilà le message de Vichy. Alors, il y a des préfets autour de la table ce jour-là à l'hôtel du Parc et eux savent très bien que dans la pratique, ils font face à des actes de résistance de plus en plus nombreux, de plus en plus audacieux. Les hommes de l'ombre multiplient toutes sortes d'actions conformément à ce qu'on leur demande de faire pour essayer de désorganiser l'occupant, éloigner les troupes de la Manche, simuler d'autres débarquements. Ça fait partie du plan général. Et c'est la raison pour laquelle Pétain reçoit donc tous ses préfets là au début du mois de juin. Il est en civil et en face de lui, il y a évidemment Pierre Laval. Autour d'eux, donc, ses préfets, tandis que les plats défilent sur la table, alors que les préfets évoquent l'un après l'autre la situation de leurs départements respectifs, Pétain sombre dans les bras de Morphée. Oui, oui, vous avez bien compris, il est en train, tout simplement, on est à table, au milieu du déjeuner, il est en train de s'endormir. Alors, c'est un peu gênant, évidemment, on se met à tout sauter, certains se mettent à parler nettement plus fort pour essayer de le réveiller sans qu'on ait besoin de lui toucher l'épaule. Un préfet qui était là témoignera qu'après quelques minutes, Pétain finit par se réveiller, il a l'air hagard, un peu perdu, il prend la parole et il dit « Les maquis ne me troublent guère. J'ai connu les mutineries de 17 qui étaient beaucoup plus graves. Le français est vif, c'est comme ça, il a des ferments révolutionnaires dans le sang, mais on peut toujours le ramener à la raison. » Bon, Les préfets se regardent un peu gênés, ils sont sidérés par cette situation. Quelques jours plus tôt déjà, le maréchal Pétain avait commis une bévue. Il avait visité la ville d'Épinal, totalement meurtrie par des bombardements. Et l'après-midi, dans le train qu'il conduisait à Dijon, il s'était assoupi, sauf que se réveillant au moment où le train s'arrêtait dans la gare de la Cité des Ducs, il s'était cru encore à Épinal. Il avait oublié son voyage de la matinée. Et il n'avait, dans ses discours et dans les propos qu'il avait tenus aux gens qu'il rencontrait, il n'avait cessé de confondre les deux. Il ne savait plus s'il était à Épinal ou à Dijon. Et dans son entourage, évidemment, on grimace, on lève les yeux au ciel, mais on ne peut pas faire grand-chose. 2 ans après la fin du conflit, alors que Pétain se trouvera donc prisonnier à l'île Dieu, les médecins qui le soigneront déclareront la démence. Mais la question qui se pose, c'est de savoir s'il était déjà sénile au moment où il assurait la responsabilité du régime de Vichy.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Vous connaissez tous l'histoire qui a conduit Pétain à la tête de l'État, hein, la défaite française de mai-juin 40. Le 10 juillet, les parlementaires qui, à quelques exceptions près, vont lui voter les pleins pouvoirs, à lui et à son gouvernement. Le maréchal est à l'époque le héros de Verdun, c'est comme ça qu'il est perçu, et pour énormément de Français, il est le sauveur. Il est évidemment bien affaibli physiquement, il a 84 ans à l'époque, mais il a l'air parfaitement, tout à fait, dans la pleine possession de ses moyens intellectuels. Les éditions Perrin viennent de faire paraître un livre de Claude Quettel qui s'intitule « Vichy ». C'est dans la collection qui s'appelle « Vérité et légende » qui veut étudier différents sujets par les idées reçues et par les généralités qu'on peut proférer à ce propos. Voici ce qu'écrit Claude Quettel dans son chapitre consacré à Pétain. La propagande campe Pétain en bourreau de travail, se levant à 5 heures, croulant sous les dossiers et multipliant les rendez-vous. Il n'en est rien. Il quitte sa chambre à 8 heures pour une journée où les promenades dans le parc, la sieste, les repas, surtout, réduisent les heures de travail et d'audience. C'est que le maréchal est gourmand à l'extrême. Les déjeuners sont tellement somptueux et en telle contradiction avec la pénurie des temps, le commandement tout pétainiste fait aux Français de se serrer la ceinture, n'est-ce pas ? Que les menus sont détruits aussitôt les repas finis. Il en va de même lors de ses nombreux déplacements à l'occasion desquels se déroulent de véritables agapes, dindonneaux truffés, foie gras, filets de sol, riz de veau aux morilles. Là, comme à Vichy, le maréchal reprend de chaque plat. Et là, comme à Vichy, la censure interdit à la presse de détailler le menu. Bien au contraire, on vante la frugalité du maréchal. À partir de la fin 43, lorsque Pétain se trouve dessaisi de tout pouvoir au profit de Laval, ses journées allégées se vident de leur substance. On complète les invités du sacro-saint déjeuner par des membres du cabinet. Que perçoit alors Pétain de tout cela ? Mais oui, c'est ça la seule question. Que Pétain perçoit-il de tout ce qui l'entoure et de cette espèce de simulacre qu'on organise autour de lui ? Thank you. Le deuxième mouvement du concerto pour clarinette de Jean Français, c'est Daniel Ottenheimer, le clarinettiste du Philharmonique de Berlin, qui interprétait ce concerto avec l'Orchestre symphonique de Munich sous la direction de Stefan Kangs.
Vous écoutez Radio Classique.
Que dit le Larousse à l'entrée sénilité ? Il s'agit de quelqu'un, nous dit-il, je cite, « dont les facultés, la conduite, les idées, les facultés, la conduite, les idées sont celles d'une personne très affaiblie par l'âge. » Ça ne veut pas dire que toutes les personnes âgées, loin de là, tombent dans la sénilité, heureusement. Mais pour ce qui est de Philippe Pétain, on peut se poser des questions au regard de ce que son entourage a pu dire et écrire. Je cite de nouveau Claude Quettel. « Il y a longtemps que la mémoire de Pétain s'affaiblit. Il est devenu de surcroît très dur d'oreille, mais cela ne saurait masquer les hésitations dans l'élocution, les passages à vide, voire les absences, les propos décousus et les enfantillages. » L'entourage de Pétain témoignait à différentes reprises des soucis de santé que rencontre le maréchal. D'ailleurs, son médecin, qui s'appelle Bernard Ménétrel, a pris dans la vie du couple Pétain une place absolument considérable. Dans la vie du couple Pétain et donc dans les institutions. Ce médecin habite évidemment à l'hôtel du Parc, dans une chambre voisine de celle du maréchal. Il est l'un des conseillers privés les plus influents au passage. Il y a une petite dizaine d'années est parue une biographie du maréchal Pétain qui fait autorité et qui est signée Bénédicte Vergé-Chaignon. Quelques années après avoir écrit son livre, des médecins qui avaient lu cette biographie ont déclaré que ce qui apparaît à la lecture, c'est que Pétain aurait été victime d'un syndrome démentiel évolué de type Alzheimer, c'est-à-dire un syndrome caractérisé par une dégradation de la mémoire, du raisonnement, du comportement, de l'aptitude aux activités quotidiennes. Enfin, vous comprenez. Quelques années plus tard, donc, Bénédicte Vergé-Chaignon a fait reparaître son livre et elle a fait une postface avec le professeur Jean-Marie Serrault. Voici ce qu'on lit. Les contemporains du chef de l'État français se sont eux-mêmes posé la question de savoir si sa clairvoyance et ses capacités de décision étaient défaillantes. Mais cette problématique débouchait généralement sur la critique de son entourage truffé de mauvais génies divers. Ceux qui travaillaient avec ou pour lui s'accusaient mutuellement de l'influencer, voire s'accusaient de détournement de vieillard. Chacun se plaignait pour lui-même de la boulie du maréchal, de sa tendance à donner raison au dernier qui avait parlé, mais sans envisager la question sous un angle médical. De même, les Français qui honnissaient Laval, mais étaient prêts à trouver des excuses à Pétain du fait de son passé glorieux et de son grand âge, ou ceux qui vouaient aux gémonies le maréchal ordonnateur ou complice de crimes, répondaient à la question de la responsabilité pleine ou atténuée selon leurs convictions morales ou politiques. Est-il possible d'apporter des réponses médicales sûres ? Pétain souffrait-il d'un syndrome démentiel évolué de type Alzheimer ? Probablement. Quand en fut-il atteint ? Dans les années 30 ? Mais l'évolution de la maladie est extrêmement lente. À quel stade de cette maladie se trouvait-il en 1940, 1942, 1944 ? Bien sûr, tous les opposants de Philippe Pétain ont toujours insisté sur sa vieillesse et donc sur son incapacité à habiter la fonction pour mieux appuyer l'irresponsabilité et surtout l'illégitimité de ce nouveau régime politique. Le général de Gaulle, qui a très bien connu le maréchal Pétain avant la guerre, puisqu'il a été l'une de ses plumes, qu'il était très proche même, mais l'expérience avait conduit à une grande rupture bien avant la guerre. De Gaulle écrira sur Pétain dans ses mémoires de guerre, je cite, « Mais hélas, les années par-dessus l'enveloppe avaient rongé son caractère. L'âge le livrait aux manœuvres de gens habiles à se couvrir de sa majestueuse lassitude. La vieillesse est un naufrage. Pour que rien ne nous fût épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France. » De Gaulle niait l'existence même d'une quelconque reconnaissance du régime de Vichy, qu'il estime évidemment illégitime, nul et non avenu, ai-je besoin de vous le dire. Et la sénilité de Pétain aurait fait, selon lui, le jouet de quelques-uns. Cette question de la santé mentale de Pétain pose évidemment, et c'est ça qui est intéressant, la question de sa responsabilité ou de sa déresponsabilisation. Je cite de nouveau Claude Quettel. La question n'est pas mince que d'examiner l'éventuelle atténuation de la responsabilité de Pétain. On lit parfois qu'il fut le jouet de son entourage, notamment dans les mains de Laval, et c'est certainement en partie vrai. Qu'on lui ait fait signer ce qu'on voulait est certainement faux. Jusqu'au bout, il fut le chef de l'État et en connaissance de cause. La collaboration pleine et entière avec le Reich nazi, c'est bien lui. Et quand bien même n'aurait-il pas tout contrôlé, en quoi un défaut des facultés intellectuelles de Pétain relativiserait-il sa responsabilité, la responsabilité de Vichy ? Le 23 juillet 45, qu'il ait été ou non sénile, le maréchal Pétain va passer en jugement. C'est le début de son procès devant la Haute Cour de justice. Le premier mouvement de la première symphonie de Honegger, l'orchestre symphonique de Bâle sous la direction de Dennis Russell Davis.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il y a eu évidemment l'épisode de Sigmaringen, vous savez, les Allemands ont emmené Pétain de force hein, dans ce château à la chute du régime de Vichy. Début septembre 44, il est donc au château de Sigmaringen. Il se cloître dans sa chambre, il ne veut plus exercer la moindre fonction. Il va rester là jusqu'en avril 45 et demande à être envoyé en Suisse et où il demandera par la suite à regagner la France. Il sait qu'il va être jugé, bien sûr, mais il a bien l'intention d'assumer sans que personne ne se pose la question de sa sénilité. Et là, Bénédicte Vergé-Chaignon écrit des paragraphes très importants. « En juin 1940, écrit-elle, Philippe Pétain, quoique dépourvu d'expérience gouvernementale et âgé de 84 ans, s'est cru plus apte, voire le seul apte, non seulement à sauver ce qui pouvait l'être après une défaite qu'il estimait définitive, mais à assumer le pouvoir exécutif, législatif, constitutionnel et même judiciaire, ainsi qu'à lancer une réforme des institutions, des mœurs et des comportements. » Mais en juin 40, les responsables politiques et les élus nationaux, dans leur grande majorité, ont jugé opportun, utile ou judicieux de le laisser faire. Entre 40 et 44, Philippe Pétain n'a à aucun moment envisagé de quitter le pouvoir. Il s'est même battu pour en conserver le contrôle et pas seulement les apparences. En même temps, ses ministres, ses collaborateurs et un nombre certain de ses interlocuteurs ont profité à la fois de son incompétence, de sa faible capacité de travail et de ses absences pour le prendre de vitesse, l'influencer ou l'outrepasser. Mais n'est-ce pas souvent ainsi que fonctionne le pouvoir ? J'ajoute une petite parenthèse, la question est assez perfide. Nous fermons la parenthèse et je reprends ce que dit Bénédicte Vergé-Chaignon. En 1945, le procès et la condamnation de Pétain étaient nécessaires symboliquement et pratiquement. En pratique, ils apparaissaient comme préalables et socle de l'épuration. Symboliquement, ils marquaient la rupture délibérée avec tout ce qu'avait été la politique de Vichy depuis l'armistice et le choix de la collaboration jusqu'à la répression et jusqu'aux persécutions. Néanmoins, un procès par contumace en l'absence de l'accusé aurait suffi, c'est ce que le général de Gaulle avait envisagé, en laissant au maréchal la possibilité de trouver asile en Suisse. D'ailleurs, le quasi-mutisme de Pétain durant son procès, sa surdité qui l'avait empêché, quel qu'ait été son parti pris, de suivre les débats, avait rendu sa présence plus symbolique justement qu'effective. Et c'est vrai que nous avons tous à l'esprit l'image, les photographies hein, et même le film de ce Pétain qui a l'air complètement absent, qui a l'air d'assister à ce procès d'un air lointain, comme si l'on parlait de quelqu'un d'autre que de lui-même.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Après la condamnation à mort de Philippe Pétain, condamnation commuée en peine de réclusion à perpétuité, il va donc être envoyé au fort du Pourtalet, dans les Pyrénées. Et après 3 mois de présence dans ce fort, qui n'était vraiment pas du tout fait pour un homme de 89 ans, évidemment, on le déplace au fort de Pierre-Levé, donc à l'île Dieu, au large des côtes de la Vendée. C'est ici qu'il va finir sa vie. là, vraiment, sa santé mentale s'est beaucoup dégradée. Hein. Elle était déjà chancelante, et la question est de savoir depuis quand. Mais en tout cas, au printemps 46, il entreprend l'écriture de quelques notes sur son passé politique, et quand on les lit aujourd'hui, on s'aperçoit que Pétain ne sait plus trop, à l'époque, de quoi il parle. Il confond toutes les périodes, il mélange les faits, des faits parfois sans rapport entre eux. Il écrit qu'au moment du débarquement en Normandie, le 6 juin 44, il se trouvait en Espagne. C'est évidemment en mai 40 hein, qu'il était en Espagne où il avait été ambassadeur, bien avant donc qu'il accède aux responsabilités suprêmes dans cet État occupé. Dans une autre note, il écrit sur l'entrevue de Montoire avec Hitler des choses qui sont fausses. Il se trompe de date, il se trompe totalement sur la manière dont l'entrevue s'est déroulée avec Hitler, etc. Il ne se rappelle plus vraiment dans quel ordre ont eu lieu les événements de la journée. Bon, bref, on s'aperçoit bien que c'est un homme plus que diminué qui prend la plume au printemps 1946. Mais encore une fois, ça ne résout pas la question essentielle de savoir depuis quand il était à ce point diminué. Ceux qui l'ont rencontré pendant l'occupation savent qu'il était tout à fait capable non seulement de tenir une conversation, mais d'avoir des propos assez précis sur le déroulement des opérations militaires, sur la situation du pays, sur les rapports avec l'occupant. Il était en tout cas beaucoup plus conscient qu'il ne l'aura été après la guerre. Depuis quand Philippe Pétain était-il véritablement sénile? C'est une question que nous n'aurons pas tranchée aujourd'hui.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Jean-Baptiste Galen d'avoir rouvert ce dossier assez passionnant. Et nous disons maintenant un grand bonjour à Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck Pétain, qui nous a bien mis dans le pétrin, si j'ose dire, pour faire une rime pas
une rime
tellement
pauvre.
Riche, une rime pauvre, si j'ose dire. Alors, cet après-midi, on va rejoindre l'histoire encore. Pour les historiens, c'est l'inquiétude, je suppose, d'être atteint de sénilité, parce que pour la mémoire, ça me pose toujours un problème. Cet après-midi, c'est très intéressant parce que vous allez nous parler des volte-face du maréchal Ney.
Oui, dans un tout autre maréchal, dans un tout autre contexte.
Exactement. Et puis demain, on vous retrouve avec joie dès 9h et à 8h05, je le rappelle, donc avec François Giffrier cette semaine, puisque David a pris un tout petit peu de repos, on peut le comprendre. Il se lève très tôt tous les matins. Oui, comme tous les journalistes de la rédaction que je salue au passage. Bonne journée mon cher Franck.
Bonne journée à vous.
Et à tout à l'heure, mais dans un petit instant, je vous emmène dans un endroit pour le 56e festival de Saint-Denis, dans cette basilique où il y a quand même, j'ai relevé...
Il y a quelques rois et quelques reines.
Écoutez, c'est, quand on fait le compte, allez-y, parce que 43 rois, 32 reines, 60 princes et princesses, une dizaine de serviteurs de la monarchie sont inhumés dans cette ancienne abbatiale de Saint-Denis, depuis Dagobert.
Enfin, ce qu'il en reste, puisque oui. Leurs tombeaux ont été profanés en octobre 93, vous savez.
Oui, au moment de la terreur. Jusqu'à Louis XIII, quand même, en 1824. Donc, cet endroit
jusqu'à
va...
Jusqu'à Louis XVIII,
pardon. Oui. Pardonnez-moi. Vous voyez, ce qui est bien, c'est quand vous commettez une erreur avec un historien à côté de vous, l'erreur est aussitôt rétablie. Merci, mon cher Franck. Et donc, nous allons nous promener dans cet endroit magnifique, en attendant que le festival commence le 29 mai jusqu'au 27 juin, avec nombre de musiciens et de concerts à la clé.